C'est l'heure de retrouver le magazine Dialogue entre Congolais avec vous, Alain Rung. Bonsoir.
Bonsoir et bon début de semaine à tous. Un seul thème dans cette émission, 49e anniversaire d'indépendance de la RDC ce mardi 30 juin 2009. Au 60 à ce jour, le pays est passé de moins de 15 millions d'habitants à plus de 65 millions. Les infrastructures ont-elles suivi cette évolution démographique? Quels défis pour les prochaines années nous recevons comme invités? Professeur Émile Bongeli, vice-premier ministre chargé de la reconstruction, il est en ligne. Léon Gaston Moulaba, secrétaire général de la Chambre des entrepreneurs de construction de la RDC, CEC, et ancien PDG de l'Office des routes, il est avec nous dans ce studio. Professeur Séraphin Ngondo, docteur en démographie de l'Université catholique de Louvain en Belgique. Il a dirigé plusieurs études en RDC, dont l'étude démographique de l'Ouest du Zaïre à l'époque. Il est également ancien parlementaire. Il est aussi en ligne. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Professeur Émile Bongeli, bonsoir.
Bonsoir.
Je rappelle que vous êtes vice-premier ministre chargé de la reconstruction. Je vais vous demander, hein, avant d'entrer dans le vif du sujet, juste un petit commentaire par rapport à ce 49e anniversaire d'indépendance. Juste un petit commentaire.
Bon, je pense que 49 ans d'existence du pays, nous devons réfléchir sur le bilan et nous devons nous impliquer sur l'élan qui est maintenant donné à la reconstruction d'un pays qui a cessé de penser un avenir meilleur pendant de longues décennies. Et maintenant, nous sommes là pour reconstruire. Il faudrait que tout le monde s'implique pour que nous puissions réellement bâtir un pays plus beau qu'avant.
Merci. Professeur Séraphin Ngondo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en démographie de l'Université catholique de Louvain en Belgique et vous avez dirigé plusieurs études en RDC, dont l'étude démographique de l'Ouest du Zaïre. Juste un petit commentaire, comment vous accueillez ce 49e anniversaire?
Oh, je l'accueille avec joie. Que c'est 49 ans pour le démographe, c'est vraiment l'âge où on cesse d'être adulte pour devenir entrer dans l'âge de troisième cycle.
Merci. Léon Gaston Moulaba, vous êtes secrétaire général de la Chambre des entrepreneurs de construction de la RDC, CEC et ancien PDG de l'Office des routes. Je vous pose la même question. Votre commentaire par rapport à cet anniversaire?
C'est avec joie aussi que j'accueille le 41e anniversaire de notre pays. Et je pense que c'est un moment imminent pour que nous puissions réfléchir et mettre fin à ce que nous avons fait jusqu'à présent et préparer les nouvel élan.
Le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo accède à son indépendance. D'une superficie de 2 345 410 km², l'explosion démographique a transformé le Congo des années 60 et ses 15 millions d'habitants en géant de plus de 65 millions d'habitants. Les infrastructures ont-elles suivi cette évolution démographique? Quelques éléments de réponse avec Kevin Côté.
Selon le document de la stratégie des croissances et la réduction de la pauvreté des SRP, la RDC accuse un déficit annuel évalué à 240 000 logements. Les villes congolaises subissent un processus auto-entretenu de destruction. À la destruction du milieu physique s'ajoute celle de l'environnement. On observe une extension continuelle des bidonvilles autour des grands centres urbains sur les terres laissées pour compte. Dans le domaine du transport, à titre d'exemple, l'essentiel du réseau de transport date de l'époque coloniale. Il s'agit entre autres un peu plus de 16 000 km de voies navigables, de 5 000 km de voies ferrées, de 145 000 km de routes nationales et régionales et de 270 aéroports à travers l'ensemble du pays, dont 5 aéroports internationaux. Dans le même document, on note un déficit d'infrastructures dans le domaine sanitaire et éducationnel. Dans une interview accordée au journal belge Le Soir, le président de la République, Joseph Kabila, a dit, je cite, « La réalité, c'est que le Congo d'aujourd'hui, ce n'est pas le Congo de 1960. En 1960, il y avait des infrastructures. Aujourd'hui, la situation est tellement plus morose. Fin de citation. La grande question que l'on se pose est celle de savoir si la RDC va réussir à rattraper son retard grâce aux 5 chantiers de la République dans la construction de ses infrastructures avec une population estimée aujourd'hui à plus de 65 millions d'habitants.
Professeur Émile Bongeli, à quoi, d'après vous, attribuez-vous le fait que les infrastructures n'aient pas suivi l'évolution démographique du pays 49 ans après?
Bon, je pense que nous ne devons pas nous éterniser tous les jours à faire les constats, un constat qui a déjà fait, été fait et refait à plusieurs reprises.
C'est parce qu'il n'y a rien qui change.
Non, dire qu'il n'y a rien qui change, ce n'est pas très honnête intellectuellement parlant. Parce que, effectivement, la situation est celle qu'on a décrite, et elle est même pire que ce qu'on a dit là-bas. Mais aujourd'hui, le chef de l'État dit, voilà la situation que nous allons trouver, et nous devons l'affronter. Vous posez la question de savoir si on peut rattraper le retard. On doit rattraper le retard, on doit aller plus loin. On n'a pas de choix. Il n'y a pas de discussion à faire là-dessus. Et aujourd'hui, le gouvernement, malgré tous les problèmes qu'il y a liés à la crise des consorts, dans ce pays, comme jamais auparavant, plus de 2000 engins routiers sont entrés dans le pays et répartis sur tout le territoire national. Donc, à la fois, on veut s'attaquer au problème des infrastructures routières dans toutes les provinces à la fois. C'est un effort qui est fait. Alors, quand vous dites que rien n'est fait, c'est que vous supposez qu'une route se construit en 2 jours. Non, il y a un temps de préparation. D'abord, négocier le fonds que nous n'avions pas. Préparer les chantiers, faire venir le matériel, le milieu de matériel de pays étrangers, installer les chantiers, créer des carrières d'où on va faire sortir les matières premières, importer ce qu'on peut importer. Et aujourd'hui, nous sommes dans la phase de la mise en œuvre. C'est clair. Si vous avez des yeux, mais regardez ce qui se fait au lieu de dire tous les jours de répéter la même chose, rien ne fait. Non, monsieur. Il faut être honnête et reconnaître que le travail a commencé, contrairement aux autres gouvernements, où on n'avait aucune perspective, on n'avait aucun projet. Mais cette fois-ci, vous savez au moins qu'il y a les 5 chantiers, et les 5 chantiers sont en marche.
Léon Gaston Moulaba, vous avez travaillé longtemps à l'Office des routes pour le vice-premier ministre Émile Bongeli. On ne doit pas s'attarder au bilan, on doit vite directement rattraper le temps. Votre réaction?
Ma réaction, c'est celle-ci. Je pense que nous ne pouvons pas nous dépasser du bilan. Il faut toujours faire le bilan et à partir du bilan, améliorer ce qui n'a pas marché de manière à ce qu'on redresse la situation.
Et d'après vous, à quoi attribuez-vous le fait que l'évolution démographique n'ait pas suivi celle des infrastructures?
Mais il faut d'abord revenir aux années 60. Hein. Vous savez que l'effort colonial consenti en matière d'infrastructure était de l'ordre de $12 par habitant à cette époque-là. Et pour le moment, nous avons connu un déficit de l'ordre de $1 par an jusqu'à ce que l'effort à l'heure actuelle par habitant est de l'ordre de $0,3 en matière, si on peut parler sur le plan financier. Donc, je pense qu'à partir de ce petit bilan-là, et ce petit constat, on peut demander à ce que les uns et les autres puissent faire un effort. Parce qu'il y a un effort de managérial à mettre en place. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir du matériel, il ne suffit pas avoir la cette volonté de dire que nous faisons des travaux, mais il faudrait qu'on s'organise et qu'on fasse une histoire des travaux de manière à ce que ce qui sera fait soit durable.
Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous attribuez ce retard à des querelles politiques? A-t-on passé, par exemple, beaucoup de temps dans les querelles politiques, beaucoup de temps dans la transition, beaucoup de temps au point d'être vraiment en retard, hein?
Je pense qu'on ne peut pas se les cacher. la politique a été à la base de tous ces déficits que nous connaissons en matière d'infrastructure. Parce que quand on voit sur les 145 000 kilomètres que les Belges ont, ont tracé, mais
de route, hein, vous voulez parler.
Je parle de route, parce que les Belges, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont fait qu'améliorer les 145 000 kilomètres de sentiers que nos ancêtres avaient déjà bâtis à l'époque. Et l'effort qui a été fourni à cette époque-là, qui c'est un effort d'amélioration et un effort de modernisation, les Belges avaient les 5500 kilomètres de route bitumée. Et dans les décennies 70 à 80, il y a eu quand même un effort du gouvernement à l'époque. On a passé de 1500 km à 3100 km jusqu'en 86. Et la situation des longues transitions, des multiples transitions que nous avons connues, ont fait que ces 3100 km de route bitumée ont été réduits à 800 km aujourd'hui, si on prend la longueur développée.
Et c'est dû à quoi tout ça?
C'est dû à, d'une part, à une certaine négligence, et puis surtout au manque d'allocation des moyens aux structures qui existent, par exemple aussi des routes bien OBD.
Professeur Séraphin Ngondo, pour vous, à quoi vous attribuez l'explosion démographique de la RDC? En 40 ans, la population congolaise a été multipliée par 4.
Bon, la Congolaise est généralement prolifique. Nous aimons les enfants et personne n'accepte qu'on puisse parler éventuellement, non pas de la limitation des naissances, mais de la planification familiale. Donc l'espacement de naissance pour les Congolais, c'est comme si on tuait. Donc les habitudes persistent, ce qui fait qu'aujourd'hui, depuis l'indépendance, la croissance démographique chez nous est de l'ordre de 3%. Par rapport à cette croissance-là, la croissance économique de son côté a été négative pendant longtemps. Or, pour qu'un pays puisse avoir de bonnes conditions puissent se développer, il faut nécessairement que la croissance économique dépasse et de loin la croissance démographique. Il n'y a qu'au cours des dernières années qu'on a connu une croissance économique qui a quelque peu dépassé la croissance démographique. Alors, dans ces conditions-là, on ne pouvait pas prévoir ou entrevoir des moyens pour pouvoir satisfaire aux besoins de la population grandissante.
Et pour vous, en tant que démographe, quels sont les facteurs qui ont milité en cette évolution démographique, que les infrastructures ne suivent pas cette évolution démographique?
Je crois que tout le monde le sait. Le Congo a connu des périodes de perturbations, des périodes de conflits, qui ont détruit ce que les Belges ont pu laisser. Et d'autre part, les Congolais, les dirigeants congolais qui ont remplacé le colonisateur n'ont pas toujours réfléchi en termes de développement, n'ont pas toujours raisonné en termes de planification du développement, donc en termes d'amélioration des conditions de vie de la population. La politique a souvent prédominé toute considération d'ordre humanitaire, d'ordre économique. C'est ce qui fait que la population est devenue de plus en plus pauvre pendant que les infrastructures se détruisent.
Professeur Émile Bongeli, c'est vrai, hein, je suis d'accord avec vous qu'on doit rattraper le temps et ça fera d'ailleurs l'objet de la deuxième partie de cette émission. Vous aurez l'occasion de vous y étendre suffisamment. Mais par rapport quand même à un petit bilan, vous êtes sociologue. Que pouvez-vous dire de la mentalité du Congolais 49 ans après?
D'abord, je voudrais réagir sur les propos de mes collègues. D'abord, l'ancien
PDG de l'Office des routes, Léon Gaston Boulama.
Oui. Si d'abord, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce système de dire 12 dollars par habitant, 0,1 $ par habitant. Je ne sais pas si mon ami a comptabilisé le matériel qui est entré aujourd'hui. Les fonds qui sont aujourd'hui injectés pour les routes par la Banque mondiale, par la BAD, l'Union européenne, et sans oublier évidemment les Chinois. Je ne sais pas si dans ce calcul il a mis le 0,3 point. Donc ce sont des chiffres qui parfois nous trompent, qui peuvent nous induire dans des erreurs. Regardons les choses qui se font concrètement. À propos de l'office de route qu'il a dirigé, il est d'accord avec moi que l'office de route est resté longtemps une entreprise d'entretien des routes en terre. Mais aujourd'hui, s'il se renseigne, on lui dira que l'office de route a acquis du matériel, qu'il en fait aujourd'hui une entreprise de construction des routes modernes. Donc ça, c'est une donne qu'il faut prendre. Le bilan, oui, mais le programme de 5 chantiers, est-ce sur base d'un bilan? Il y a eu d'abord une vision, on a fait un bilan et on a établi les 5 chantiers. Alors, au lieu de revenir toujours au bilan, allons de l'avant. Vous avez bien dit que c'est la politique. D'ailleurs, le professeur aussi l'a répété. Je suis d'accord avec vous. Ce sont les politiciens qui ont créé cette situation. Mais aujourd'hui, les mêmes politiciens vous disent reconstruction. Remettons-nous au travail. On vous invite à travailler. Donc, il faut changer de mentalité parce que vous avez parlé de mentalité. À propos de manque de moyens, ce n'est pas toujours vrai. Parce que beaucoup de moyens ont été aussi détournés, il faut le reconnaître. Il y a de l'argent qui a été débloqué pour les routes avec les systèmes de commission. On refait une route aujourd'hui, 2 mois après, la même route redevient abîmée. On le sait. Et lui qui a travaillé à l'office des routes, tout comme ceux qui ont travaillé dans la voirie. Nous savons tous comment les choses se passaient ici. Donc le manque de moyens n'est pas le seul problème. Il y a aussi la mentalité, une mentalité qui doit changer pour que nous allions de l'avant. À propos de routes bitumées, je voudrais lui apprendre que dans le programme actuel, le ministre Lundi, qu'il faut aussi inviter, a déjà programmé la réfection de toutes les routes anciennement bitumées. Je dis anciennement bitumées parce que toutes ces bitumes sont parties. Vous n'avez qu'à voir la route de Bandundu, n'est-ce pas, qui est aujourd'hui entièrement en chantier. Mais le ministre Lundi a aussi ajouté des routes qui n'étaient pas asphaltées, mais qui aujourd'hui sont en voie d'être asphaltées. Je vous donne l'exemple de route que j'ai moi-même vue.
Très rapidement, monsieur le vice-président.
Oui, monsieur, il faut prendre le temps. Vous ne m'avez pas invité pour me faire parler. Rapidement. Il faut que je donne l'explication.
Exactement.
Comment j'ai le dossier.
Allez-y.
Le dossier. La route, par exemple, Lubumbashi-Kasenga, en train d'être bitumée, les ponts entièrement refaits. La route Beni-Kisangani, elle est en train d'être bitumée aujourd'hui, après avoir été réouverte, après plus de 30 ans de non-fonctionnement. Donc, le travail est en train de se faire. Et nous ne pouvons pas, ce que je dis quand je vous dis qu'il ne faut pas revenir au bilan, il ne faut pas toujours parler le langage des années 90. Yeah. Nous sommes aujourd'hui, n'est-ce pas, au troisième millénaire, et la politique vous invite à travailler et mettez-vous au travail.
Merci, monsieur le
vice-premier
ministre. Monsieur le vice-premier ministre, vous allez, sans vous arracher la parole, on vous garde dans ce débat. Nous allons donner l'occasion à Léon Gaston Moulaba de vous répondre. Hein. Léon Gaston Moulaba, le vice-premier ministre Bongeli, n'est pas tout à fait d'accord avec les chiffres que vous avancez. Il pense que vous ne tenez pas compte de la réalité. Il y a des choses qui changent, il y a des engins qui arrivent. Et par rapport à l'Office des routes, il vous a donné un peu plus d'éléments. Donc vous êtes un peu déconnecté.
Non, je pense que je ne suis pas déconnecté, parce que ce que je dis est vrai. Vous savez qu'avant l'indépendance, les Belges ont mis à disposition du secteur routier 169 millions de dollars par an, et que cette situation a été aussi reprise dans les années 80, dont il ne veut pas qu'on parle, parce que c'est toujours une référence dans les années 80 par les gouvernements qui mettaient 60 millions de dollars par an à l'office des routes, et les partenaires donnaient aussi l'équivalent. Et en ce qui concerne maintenant les réseaux routiers, quand j'ai dit que
il y a eu quand même un effort de 1500 km que les Belges nous ont laissé en 60. Et les différents, donc la Deuxième République a fait passer les 1500 km à 3100 km. Et que les différentes transitions ont fait que pendant, nous avons perdu les 3100 km en, qu'on a réduit à 800 km. Je salue le programme du 5 chantiers, mais tout ce que je demande par expérience, on ne puisse pas dire qu'on a eu 2000 engins, parce que l'office de route en avait 2700. Il avait aussi les prérogatives de faire des routes modernes, parce que au moment où je vous parle, il y a une des routes que moi-même j'ai construite ici à Kinshasa, le boulevard Triomphal, on a, qui tient ici parce qu'on a respecté les normes. Mais ce qu'il faudrait maintenant, il faudrait encourager à ce qu'il y ait un organe de concertation pour que les erreurs du passé ne puissent pas revenir sur ce qu'on est en train d'objecter. Par exemple, la parée de la route nationale numéro 4 entre Beni et Kisangani, c'est une route complètement humide, c'est une route de forêt. Et les travaux que sont en train de faire, si on se réfère toujours à la même mentalité que les uns et les autres ont évoqué ici, ça sera dans 7 ans, dans 8 ans, donc si nous rendons, on verra ce qu'il y aura, parce qu'il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas de programme, même s'il y a les phonaires tels qu'il a été présenté maintenant. Il faudrait quand même qu'on fasse attention. Nous avons perdu tous les financements à l'époque, sur les 1 milliard donné pendant 25 ans à la RDC par les partenaires extérieurs. Il y a à peu près 40% de ces montants qui ont été engloutis de façon réitérée sur la route que ça s'amateur. Parce qu'on arrive au fond, à la fin, et puis après, comme il n'y a pas d'action d'entretien, on revient. Il faudrait qu'on fasse attention et qu'on privilégie les travaux de manière à ce qui sera bâti soit une certaine pérennité, une certaine durabilité. Moi, je ne suis pas contre les 5 chantiers. C'était, d'ailleurs, le système qui a été trouvé maintenant, c'est un kairos pour moi. Parce que pour avoir 1 milliard, il a fallu le kairos, c'est un temps favorable. Quand il y a la présence chinoise, qui va jusqu'à 9 milliards à peu près, même prévision, par objectif, de 9 milliards, par exemple, le financement du secteur routier, c'est louable. Parce que nous, pour obtenir les 1 milliard, il a fallu 25 ans. Les 9 milliards nous font gagner directement 150 ans en termes de financement. Mais nous devons quand même nous regarder dans les yeux sur les utilisations. Il ne faut pas dire que les uns les autres là-bas détournaient. Cette mentalité persiste jusqu'à aujourd'hui. Mais il faudrait qu'on s'organise de manière à ce qu'on puisse aider la République et que les 5 chantiers dont nous clamons aujourd'hui puissent déboucher sur des actions durables et des actions qui transforme l'économie qui était extravertie avant l'indépendance et qui puisse faciliter que l'économie soit introvertie. Et puis pour l'introvertir, il ne fallait pas commencer peut-être par certains actes qu'on est en train de commencer maintenant.
Quelqu'un,
par exemple, qui Beni Kisangani. Il y avait moyen de terminer ce qui était déjà fait, parce qu'il y a la nationale 4. Il fallait déboucher Kisangani sur les fleuves Congo, par la route de Penetungu qui passe par Walikale. Il ne reste que 60 km là-bas sur cette route pour atteindre Bukavu, la nationale numéro 3 par exemple. Kasumbale, ça, donc jusqu'à Lubumbashi, Kasenga, j'ai salué ça, parce qu'on s'est toujours arrêté à Kasomelo. Parce qu'à ce moment-là, on aura un jour la possibilité d'aller à Kilwa, Pueto et Kalemi, c'est la nationale numéro 5.
On va donner l'occasion tout à l'heure au vice-premier ministre Émile Bongeli de vous répondre. Professeur Séraphin Gondo, vous êtes démographe et vous avez fait des études démographiques sur l'ouest du Zaïre à l'époque. À quel moment a-t-on commencé à perdre les repères démographiques en RDC?
Je voudrais d'abord m'excuser par rapport à ce qu'a dit le professeur Bongeli. Je crois que vous nous avez invités essentiellement pour faire le bilan des années passées depuis l'indépendance. Et quant aux perspectives que donnent les 5 chantiers, je crois que nous devions attendre quelques années pour faire le bilan et en donner les résultats. Donc, pour le moment, j'aurais voulu que nous partions, par exemple, dans le domaine de la population, sur l'impact de l'augmentation de la population sur nos universités. Donc, de façon claire, on voit que l'université est surpeuplée. L'université n'a pas suffisamment de professeurs. Tout cela, ce sont des problèmes démographiques qui s'expliquent par le fait que l'État n'a pas eu suffisamment de moyens pour pouvoir construire de façon à devancer la poussée démographique. C'est ça que j'aurais voulu peut-être qu'on puisse insister, puisqu'il y a vraiment des preuves de le déséquilibre entre la population et le développement. Des cités qui étaient planifiées comme Lemba, qui étaient faites pour peu de monde, aujourd'hui ce sont des cités surpeuplées où les ménages doivent maintenant transformer des maisons qui ont été faites pour des couples de petite dimension et où aujourd'hui on doit avoir des annexes, des modifications, où les enfants dorment dans les salons, tout ça. Ce sont des impacts démographiques qui s'expliquent par le fait que l'autorité, soit parce qu'elle n'a pas de moyens, soit parce qu'il n'y a pas une vision, soit encore parce qu'on ne voit pas exactement comment évolue la population, les autorités n'ont pas pu prendre des mesures. Aujourd'hui, l'université se mère. Là où le vice-premier ministre, qui est un excellent professeur, un grand professeur, donne cours, c'est dans les salles qui étaient prévues pour 120 étudiants. Et aujourd'hui, les étudiants sont en masse, même à l'extérieur des salles, les étudiants sont là. Et pendant ce temps-là, je ne sais pas ce que les cinq chantiers prévoient pour l'université de Kinshasa, mais il faudra prévoir déjà maintenant, parce que la population ne va pas s'arrêter et ça va augmenter. Vous m'avez posé la question de savoir quand est-ce que le déséquilibre a commencé entre la population et la croissance économique, puisque les démographes réfléchissent à ces termes-là. Bon, je ne saurais pas vous le dire à mesure où notre pays est caractérisé par une absence de statistiques. Heureusement qu'il y a un recensement en perspective. Mais à partir du moment où, pour le moment ici en concernant l'université, à partir du moment où on a créé des universités partout pour répondre parfois aussi aux besoins d'éducation, à ce moment-là, il y a eu une crise, il y a eu un déséquilibre très profond entre la population scolarisable et les moyens. Alors, partout, on a des universités qui sont servies essentiellement par les professeurs des grandes universités. Il y a des universités qui n'ont pas de locaux, tout ça. C'est l'impact de la démographie sur la croissance économique.
Merci, professeur. Professeur Émile Bongeli, avant qu'on prenne la première gamme des réactions des auditeurs, je vais vous demander très rapidement de répondre à Léon Gaston Moulaba et au professeur Séraphin Gondo.
Merci beaucoup. Je suis d'abord content de voir que Monsieur Moulaba est d'accord avec nous sur beaucoup de points. Je voudrais que d'abord, il ne faut pas parler de cinq chantiers au péjoratif que nous clamons, n'est-ce pas? Il faut intégrer ça. C'est une question de vie ou de mort pour nous. Reconstruire le pays, ce n'est pas une question de clamer. Bon. Et puis, on dit que je vante les 2000 engins, l'office de route en avait 2700. Qui avait fait quoi? Quel bilan? Nous avons tous vécu cette période-là. Quel est le bilan? Nous avons des cimetières des engins partout dans le pays. Ça n'a servi à rien. Alors, en ce qui concerne la route Beni-Kisangani, effectivement, on a tenu compte. Les ingénieurs ont tenu compte du fait que l'environnement est plus vieux. Enfin, vous connaissez mieux les termes que moi. Mais on a opté pour un système qui déblaye une grande partie, beaucoup de mètres pour ensoleiller la route, parce que l'ensoleillement peut aider les routes à tenir un peu plus. Bon, le fonner, vous pouvez critiquer le fonner, mais c'est quand même une innovation qui va permettre l'entretien des routes. Nous attendons vos critiques positives pour aller plus loin. Merci. La route de Kinshasa-Matadi, a été longtemps. Ça a enrichi combien de gens qui prenaient des commissions? On ne faisait jamais du travail serré, il le fait. parce qu'il est en train de l'office de route.
Mais qu'est-ce que vous,
avant
que vous...
Non, je m'excuse, monsieur. Donnez-moi le temps. Vous m'avez invité.
Il nous reste
15 minutes. Il faut que je fasse le point.
Très rapidement, il nous reste 15 minutes. Très rapidement.
Voilà.
Allez,
donc, pays qui s'en gagne, on dit que ce n'est pas une priorité. Ça, ce n'est pas connaître la géographie de ce pays. Mais c'est grave. Mais l'entrée du pays à partir de l'Est et la sortie du pays qui s'en gagne, c'est une ville carrefour qui relie l'Est à l'ouest, au sud et au nord. Comment on peut dire que la route de Kisangani n'est pas une priorité? La route de Walikale dont il parle, c'est pris en compte. On a déjà fait Kisangani Lubutu et on est en train de continuer.
Professeur Ngeli, excusez-moi, nous vous gardons dans l'émission. Vous êtes toujours avec nous dans l'émission. Il est temps de prendre les réactions des auditeurs, quelques réactions des auditeurs. Vous allez réagir encore. Il y a Hilaire Aguinonga de Bounia qui se demande, au regard de la croissance de la population congolaise qui est passée de 15 à plus de 65 millions d'habitants, s'il faut parler de l'indépendance ou de la dépendance en termes d'infrastructure. Nassibou Saloumou de Kindou estime que les 49 ans d'indépendance de la RDC ne nous ont avancé en rien car nous connaissons les mêmes situations qu'avant l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Augustin Mwango de Kindou pense que l'indépendance obtenue il y a 49 ans était politique et non économique car la RDC dépend toujours économiquement de l'extérieur puisque n'étant pas en mesure de produire en dépit de toutes les richesses qu'elle possède, pour lui il est temps de combattre la corruption, l'égoïsme et l'injustice pour se livrer au travail. Dessou de Lubumbashi affirme que d'autres pays ont enregistré une nette amélioration et progrès en 5 ans de leur indépendance, mais la RDC en 49 ans d'indépendance n'a rien comme avancé dans tous les domaines. Clément Madi Moudarou en province orientale pense qu'en 49 ans d'indépendance, rien n'a changé en RDC. Robert Baomé de Bukavu pense, lui, qu'en 49 ans d'indépendance, les infrastructures sont restées presque telles qu'elles et donc en disproportion avec l'évolution démographique, ce qui doit poser à l'avenir des sérieux problèmes si l'on y prend garde. Professeur Séraphin Gondo, votre réaction très rapidement par rapport à ce qu'ont dit ces auditeurs avant qu'on l'on passe à la deuxième partie de l'émission.
Ce qu'ils disent, c'est ce que nous constatons. Il y a destruction dans beaucoup de domaines. Par rapport à l'augmentation de la population, la misère s'accroît parce que l'écart est encore très important entre la démographie et la croissance économique. Toutefois, nous ne devons pas perdre l'espoir parce que les autorités en place sont en train de prendre des dispositions de manière à ce que, à l'avenir, la situation puisse s'améliorer. Mais seulement ces mesures, il est à voir si elles sont proportionnelles à la profondeur du mal pour le moment. Et puis, quand est-ce qu'elles vont donner les résultats? Est-ce que ces mesures-là sont étudiées en fonction de la population? Je voudrais signaler que pour aller d'ici, il est beau, il n'y a pas moyen de partir. Quand vous quittez Idiopa, c'est fini, il est beau, c'est chez moi, vous ne pouvez pas y arriver en véhicule. Bon. Est-ce que dans les 5 chantiers maintenant, il est prévu quelque chose pour qu'on puisse arriver là-bas, Kikapa, Luebo, tous ces points-là, à l'intérieur?
Professeur Séraphin Gondo, et là, nous n'avons plus parlé que des routes, hein, mais il y a des écoles, des hôpitaux à l'intérieur du pays. Qu'est-ce que vous en dites?
Je dis pour le moment que les gouvernements ou les autorités n'avaient pas encore songé à ces infrastructures-là par rapport à la population. C'est comme si la population avait cessé d'augmenter. Jusqu'ici, quand vous arrivez dans le Bandundu à l'intérieur, il n'y a pas d'hôpitaux nouveaux qui se construisent. Or, il y a une norme. Le nombre de médecins par habitant, et le nombre d'habitants par médecin, le nombre de lits d'hôpitaux, tout ça, chez nous, on ne construit pas. Sauf peut-être ici, dans la capitale, où il y a encore quelques privés qui ont pu construire. Mais sinon, à l'intérieur, et plus nous traînons, plus l'écart va s'accroître entre population et puisque la population ne cesse d'augmenter. il faudrait peut-être préconiser, évidemment, ça c'est une solution que les Congolais n'acceptent pas, l'espacement des naissances à un moment donné pour adapter cette croissance à nos possibilités économiques.
Léon Gaston Moulaba, une réaction rapide hein, par rapport à ce qu'ont dit les auditeurs.
Oui, je veux réagir à propos de l'intervention du vice-premier ministre que je respecte. J'aimerais quand même informer le public et les auditeurs qui nous suivent que par expérience à l'est et au centre du pays, si j'ai parlé d'introvertir l'économie, c'est en fonction de ça que je dis que le gouvernement est en train de fournir un effort. Il ne faut pas que cet effort soit dispersé ailleurs. Là où il faut 10 ans, 16 ans pour atteindre Kisangani, et pourtant, il fallait atteindre Kisangani même dans une année, en terminant les travaux qui étaient arrêtés après les travaux de Strabag au niveau de Walikale, entre Walikale et Itebero et Musenge, par exemple. Et puis là, entre quelques sections abîmées autour de Bunyakiri, par exemple, pour la nationale numéro 3. Et si elle a parlé de pays limitrophes qui nous entourent, tels que l'Ouganda, c'est simple. La nationale 4 commence par Kasindi, Beni. À partir de Beni, on reprend, on descend vers le parc de Virunga, c'est-à-dire par Takanyabayonga, où les Brésiliens, Andrade, avaient déjà asphalté Goma jusqu'à Kabasha. Qu'est-ce qui peut interdire c'est qu'on fasse Beni, Kabasha, qu'on fasse la jonction? Parce que la finalité est d'atteindre Kisangani et d'atteindre Bukavu.
Merci. Nous allons
parler. L'année de même aussi pour la nationale numéro 1. Parce que l'articulation pour réussir ce pays, éviter tout ce que nous avons connu à l'Est et tout ça, il faut ouvrir la route Bukavu, Mbujimayi par exemple, pour rejoindre la nationale numéro 1. Ici, il y a 4 axes principaux dans ce pays. Si on arrive à les mettre en programme par le gouvernement, par notre gouvernement,
rapidement.
La nationale numéro 1, entre Bachamba maintenant et Mbujimayi par exemple, il faudrait qu'on termine, et entre Mweneditu et Kamina Nguba, ça c'est les sections de la nationale numéro 1. La nationale numéro 2, malgré qu'on dit qu'on a repris, il y a eu des travaux financés par le COP qui sont en terre, et vous savez ce que ça donne. Quand on nous dit qu'en 86, les résultats n'étaient pas meilleurs, et pourtant que l'office de route avec les 2700 engins, il a réussi à ouvrir plus de 30 000 kilomètres qui ont fonctionné normalement jusqu'à 90.
Merci.
Par manque d'entretien, nous arrivons à la situation que nous connaissons. Et nous connaissons la même situation si nous n'arrivons pas à mettre l'accent sur l'entretien dans l'avenir.
Merci. Quel défi pour les prochaines années? C'est la deuxième partie de cette émission. Professeur Émile Bongeli, vous avez déjà donné le ton hein, en parlant des 5 chantiers comme défi par rapport aux prochaines années. Mais Léon Gaston Moulaba parle d'entretien. Qu'est-ce que vous avez prévu dans le cadre des 5 chantiers pour l'entretien des routes, des écoles, et combien de temps vous donnez pour que ce soit matérialisé les 5 chantiers?
D'abord, monsieur le journaliste, je proteste contre cette façon d'organiser un débat. Je suis membre du gouvernement, j'ai des informations à donner, des informations vraies à donner à la population, et vous m'accordez très peu de temps.
Merci, professeur. On en tient compte, mais vous n'êtes pas seul dans le débat.
Non, je voudrais vous dire d'abord ceci.
Je vous en prie, allez-y rapidement.
D'abord, pour répondre au professeur Mond, mon grand frère, que je salue d'ailleurs, l'impact sur les universités aujourd'hui surpeuplées, l'impact du surpeuplement même de Kinshasa, la surpopulation de Kinshasa. Je pense que le prof qui est démographe sait très bien que Kinshasa est aujourd'hui surpeuplé par une grande partie de la population qui fuit le village. Pourquoi on fuit le village? Parce qu'au village, on est enclavé, on peut travailler, on ne gagne rien, finalement tout est ici. Il faut donc rouvrir les routes pour intéresser les gens au village. Et je voudrais aussi lui répondre que la route de Dilobo-Tchikapa, plutôt de Kinshasa-Tchikapa, et puis en compte, il y a d'ailleurs un pont, je ne connais pas, le pont qui relie le Kouil au Verticapa est en train d'être fait, donc il y a beaucoup de choses qui se font. Les 5 chantiers ont prévu la construction des hôpitaux dans chaque territoire du pays.
Et ça pourrait se matérialiser dans combien de temps?
Ça pourrait se matérialiser.
Ça pourrait être
possible. Je voudrais lui dire que
Monsieur le
Kisangani est déjà atteint.
Mais
minimiser l'impact de Beni et commande à Kisangani, c'est oublier qu'il y a aussi Bounia. Il y a aussi toute l'Ituri qui est servie par cette route-là. Cette route-là est déjà fonctionnelle. Maintenant, on est en train plutôt, on a entrepris de la santé.
Professeur
Bougimaï est déjà pris en compte. Donnez-moi le temps,
professeur monsieur. Professeur Émile Bongeli, vous êtes en avance sur le temps par rapport au chrono que nous avons. Il nous reste 5 minutes. Je vous en prie, soyez très bref, si vous pouvez vous résumer, et on va accorder la parole à d'autres intervenants.
Oui, je voudrais lui dire que Bukavu Mbujimaï, la route est déjà prise en compte. Les Chinois ont travaillé Bukavu jusqu'à Kasongo, mais ils sont au niveau de Walik. Non, de...
En attendant que la ville vous revienne, professeur.
Non, ce n'est pas ça l'essentiel. À partir de Mbujimaï, il y a une société, d'ailleurs c'est la Banque mondiale qui a financé cette route-là. Donc, il faut prendre l'information. Moyedit Mbujimaï est déjà pris en compte. Bon, je ne sais pas, on parle de 30 000 km de route. Nous savons que depuis les années 80, il n'y a plus de route dans ce pays. Moi, je suis un rural. Je fais le... Pourquoi vous voulez tromper la population?
Professeur Émile Bongeli, Léon Gaston Moulaba va vous répondre. Il n'est pas d'accord avec vous. Très rapidement, Léon.
Oui, il faut que, Excellence, excusez-moi, que je puisse répondre, parce que je sais que dans les années, tous les rivaux me donneront raison, parce que j'ai fait 25 ans avec eux, j'ai partagé cette vie avec eux. Dans les années 80, 90, 86, c'était l'apogée à l'office des routes, et vous demanderez à n'importe qui, même à vos conseillers, ils connaissent très bien que nous avons ouvert, on a rechargé, même la route qu'on se proclame aujourd'hui de l'Ituri comme étant ouverte, qui est ouverte en terre battue, elle était ouverte totalement aussi dans cette période-là. Que ce soit même la route de Bouta, elle était ouverte. La route de Bukavu et de Mbujimaï jusqu'à Bukavu. Les Chinois ont travaillé jusqu'à Kamituga complètement. Et il y a des problèmes entre Kamituga et Kasongo.
Léon Gaston
de Kasongo et l'entreprise qui était à Mbujimaï n'a fait qu'à 11 km.
Léon Gaston Moulaba.
J'étais moi-même à Kananga il y a de cela 2 ou 3 mois.
Sans vous
côté de Kananga, les 10 km qui ont été faits sont complètement érodés.
Sans vous arracher à la parole, nous sommes au niveau des défis. Quels sont les défis pour les prochaines années? Très rapidement, il nous reste 2 minutes.
Les défis pour les prochaines années, il faudrait qu'il y ait un cadre de concertation entre les connaisseurs et ceux qui veulent mettre, qui travaillent maintenant, de manière que nous mettions ensemble. Parce que nous avons quand même une expérience et une formation que nous avons reçue et financée par le gouvernement congolais, par l'État congolais. Il serait aberrant de ne pas de laisser, parce que nous souffrons. Quand nous voyons la façon dont on programme maintenant, au lieu de respecter le chemin critique, on passe par des chemins tout à fait... Par exemple, la route qui s'engage une chose. Bounia passe par Komanda. Il pouvait se greffer aussi directement sur Beni. Alors, référer le chemin critique, le chemin le plus probable, même quelqu'un qui vient de Mahagi,
résumerait
facilement par
résumez-vous en guise de conclusion.
Nous demandons à ce que nous puissions que le gouvernement crée un cadre de concertation pour qu'ensemble, nous puissions accompagner les 5 chantiers.
Professeur Séraphin Ngondo, quels sont les défis d'après vous pour l'avenir en 45 secondes?
Les défis pour l'avenir, d'abord il faut un recensement nous permettant de connaître combien nous sommes et où nous sommes. Ensuite, il faut mettre en place des infrastructures pour accueillir cette population qui ne cesse d'augmenter. Pour construire une école, une université, un hôpital, il faut beaucoup de temps et la population n'attend pas pendant ce temps-là.
Merci.
Par exemple, maintenant, les universités...
Très rapidement, professeur.
Largement dépassées.
Merci beaucoup. Professeur Émile Bongeli, quel défi pour les prochaines années,
D'abord, monsieur le journaliste, vous nous trompez en disant que le monsieur Malaba a arraché la parole. Vous lui avez accordé plus de temps alors qu'il n'a pas le dossier. Donnez-moi le temps d'expliquer la vérité.
Une minute, excellence. Allez-y rapidement, je vous en prie.
Il dit des choses incroyables sur les routes et tout ça, des choses fausses. Bon, est-ce que le gouvernement a fermé les portes? Lui est un ancien de l'office des routes. Mais qui vient de collaborer? Qui l'empêche de collaborer? Alors, quand vous dites que les perspectives d'avenir, c'est quoi? Le pays, aujourd'hui, la politique, le chef de l'État invite tout le monde à travailler. Reconstruisons notre pays. Bâtissons un pays plus beau qu'avant. Travaillons, il n'y a pas de miracle. Travaillons, s'il y a des critiques, venez le faire et nous allons travailler. Mais nous travaillons. Il ne faut pas toujours inviter des gens qui viennent démotiver, les gens qui viennent débiter des mensonges, qui parlent de choses qu'ils ne connaissent pas.
Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre Émile Bongeli. C'est par vous que nous terminons cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis et bonne fête d'indépendance partout où vous nous suivez.